Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner face aux imprévus sur votre route.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, c'est donc à Marseille que nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour ouvrir le micro de Priorité Santé à de grands spécialistes de la médecine infectieuse et tropicale. Médecins et chercheurs qui se sont donné rendez-vous à l'occasion de ces actualités du Pharo et au lendemain de l'émission consacrée à l'alerte et à la veille sanitaire après la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, nous vous proposons d'échanger autour de l'actualité des maladies émergentes et des réponses aux flambées épidémiques en milieu tropical. Nous parlerons de la peste pulmonaire à Madagascar, de la situation sur le front des fièvres hémorragiques en Afrique subsaharienne, comme de la surveillance de la variole du singe et de la prise en charge des patients qui ont contracté le virus monkeypox. Au Mali, de l'accès aux ressources du diagnostic en milieu reculé et de la veille sanitaire en zone de conflit. Des sujets qui, avant la pandémie, n'intéressaient a priori que le cercle relativement restreint des infectiologues, mais qui aujourd'hui interpellent bien au-delà de cette communauté médicale. Les risques liés aux transmissions zoonotiques de l'animal à l'homme bénéficient aujourd'hui d'une audience plus large, tout comme le lien entre santé et environnement. Une seule santé, santé publique, une seule planète. Des exemples qui permettent aussi de rappeler qu'y compris en l'absence d'un système de soins performant, une organisation adaptée de la riposte peut se révéler efficace pour lutter contre les agents infectieux les plus redoutables. Madagascar, RDC, Ouganda, Mali, Europe, Amérique du Nord, autant de pays de région auxquels nous ferons référence avec nos invités au cours de cette émission, flambée infectieuse, épidémie sans frontières. Avec nous, Dr Odile Owemisi-Oukem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes virologue, représentante de la Fondation Mériot Mali. Et lors de ces journées des actualités du Pharo, vous présidez la séance consacrée à l'alerte et à la réponse aux risques infectieux. Nous retrouvons également le professeur Mami Randria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin infectiologue, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au centre hospitalier universitaire Joseph Rasset Befela Tanane à Antananarivo. Je l'ai bien dit, ça va ?
Ça va.
Nous aborderons avec vous la prise en charge de l'épidémie de peste pulmonaire à Madagascar. Retour sur l'expérience de 2017 en milieu urbain. Et puis c'est un habitué de notre émission, professeur Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital américain à Paris. En votre compagnie, nous allons aborder l'actualité des fièvres hémorragiques, Ebola, Marburg, fièvre de la vallée du Rift, Lassa, mais aussi donner des indications sur l'évolution de l'épidémie de variole du singe.
Priorité santé sur RFI.
Pandémie, épidémie, endémie, nous allons avoir l'occasion au cours de cette émission d'aborder ces trois situations sanitaires au travers d'exemples concrets, de projets de recherche comme d'expériences de terrain. Le cœur de cette problématique, c'est à la fois d'apporter des solutions aux populations locales, docteur Odile Owemisi-Oukem, tout en fournissant des informations essentielles. Ça veut dire que sur le terrain, on pense clinique, mais au-delà, on pense forcément aussi épidémiologie.
Oui, épidémiologie, et puis aussi, au-delà de la clinique, en fait, le diagnostic de laboratoire. Donc, au Mali, notamment dans les zones rurales ou dans les centres de santé de première ligne, le médecin s'appuie sur le rôle du laboratoire avec un minimum d'analyse médicale qui lui permet d'asseoir son diagnostic.
Professeur Rapp, aussi, c'est quelque chose qui a été extrêmement important dans le cadre du VIH-Sida pour adapter justement les traitements antirétroviraux et éviter la résistance aux médicaments.
Alors c'est un point clé de la réponse à toutes les épidémies de maladies infectieuses et à toutes les grandes endémies, c'est le laboratoire et la notion de test rapide, de test au lit du malade qui se développe de plus en plus et notamment même en biologie moléculaire comme c'est utilisé aujourd'hui dans les fièvres hémorragiques virales africaines.
Alors docteur Odile Owemisi-Oukem, tout à l'heure à l'échelle du Mali, on va s'arrêter sur l'expérience Labo Medcamp justement, on va y revenir tout à l'heure en votre compagnie. On abordera également une autre initiative avec vous, le réseau de biosûreté dans la zone Sahel. On voit dans ces deux cas que sont vraiment des problématiques et des projets adaptés à des situations concrètes, à des situations de terrain. Donc un autre péril infectieux dont on parle avec vous, professeur Rapp, zoonose qui a subitement fait la une de l'actualité ces derniers mois, la variole du singe, un virus observé de près, un suivi de près. Il n'a pas apparu comme ça du jour au lendemain. En Afrique centrale notamment, République démocratique du Congo, Centrafrique, Cameroun. C'est vrai que l'Occident l'a découvert, mais les chercheurs, y compris donc les biologistes, s'en occupaient depuis déjà plusieurs décennies.
Oui, bien sûr. En fait, la variole du singe, c'est un orthopox virus, c'est un cousin de la variole. Le virus a été découvert en 1958 sur des primates, mais le réservoir est en réalité des rongeurs. Il y a des épidémies et c'est une circulation endémique, hein, permanente, notamment en RDC. Et depuis une quinzaine d'années, il y a des cas sporadiques importés depuis le Nigeria, sur l'Angleterre, l'Israël et les États-Unis. Et donc là, il y a eu émergence en 2022 à partir d'un cas importé du Nigeria en Grande-Bretagne et puis ensuite en Espagne, au Portugal. Il y a eu une diffusion un peu inhabituelle dans la communauté majoritairement des homosexuels à partenaires multiples qui a entraîné une épidémie qui est actuellement en train de calmer, mais qui a fait environ 80 000 cas dans le monde, 20 000 cas en Europe. Uniquement 4 décès, ce n'est pas une maladie très létale, contrairement à la variole, mais c'est quand même une nouvelle maladie sexuellement transmissible, hein, parce que le virus est très contagieux et on attrape l'infection par un contact avec les lésions cutanées et muqueuses de cette maladie qui donne des éruptions, de la fièvre, des ganglions et beaucoup de lésions génitales dans ce mode de transmission.
Mais pas forcément par les fluides corporels et les fluides sexuels.
On a mis en évidence du virus dans les fluides sexuels, mais pour l'instant, sur le plan nosologique, ce n'est pas considéré comme une infection sexuellement transmissible, mais c'est au cours du rapport sexuel le contact avec les lésions contagieuses qui génèrent la transmission.
Et il faut souligner que le variant de variole du singe d'Afrique centrale n'est pas le même, hein, notamment en termes de létalité, de dangerosité, que celui qui circule actuellement, qui est, on va dire, un variant plutôt ouest-africain.
Tout à fait, oui. La souche, il y a une classification récente en 3 souches. Et là, la souche, effectivement, émane de la souche de l'Ouest africain et elle est moins virulente. Et de fait, il y a très, très peu de décès.
Et si on s'intéresse là juste aux informations chiffrées, elle en est où l'épidémie actuellement? Est-ce qu'on peut dire qu'elle reflue?
Alors oui, l'épidémie, et le pic a été atteint au mois de juillet, l'épidémie est en train de décroître. En particulier, il faut le souligner, grâce à la vaccination, hein, c'est une maladie pour laquelle on utilise un vaccin qui notamment est donné au contact, un peu comme dans Ebola, une vaccination en anneaux qui peut permettre d'interrompre le cycle de transmission. Donc là, on a la chance pour un agent émergent d'avoir un vaccin, ce qui n'est pas toujours le cas.
Alors là, on est vraiment dans l'actualité des épidémies et puis il y a aussi les retours d'expérience. C'est ce qu'on va faire avec vous, hein, professeur Mamirandria, une maladie que beaucoup pensent disparue et qui a occupé vous, médecin Antananarivo, c'est la peste pulmonaire. Quand on dit que Madagascar est un pays à endémie de peste, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, c'est vrai. Madagascar est un pays où la peste est encore endémique. La peste, comme ça a été dit, c'est une maladie animale, donc c'est une zoonose. Il y a des régions qui sont beaucoup plus concernées que d'autres. Par exemple, c'est les régions qui se trouvent à plus de 700 mètres, 800 mètres d'altitude, c'est-à-dire dans les hautes terres centrales. Le souci, c'est que, en général, la peste sévit en milieu rural. Et c'est les médecins qui travaillent dans ces zones-là connaissent beaucoup mieux la peste que les médecins qui travaillent dans les grandes villes.
On va dire les médecins de campagne.
C'est un peu ça.
Mais cette peste qui est, justement, vous le disiez, endémique à Madagascar, peste pulmonaire, donc transmission, ou c'est plutôt rare?
Habituellement, c'est des cas de peste bubonique que l'on trouve. En fait, quand la peste bubonique est prise en charge tardivement, elle peut évoluer vers une peste pulmonaire qu'on appelle peste pulmonaire secondaire. Mais à partir de ce cas de peste pulmonaire secondaire, on peut avoir des cas de peste pulmonaire primaire ou primitive. Et ça donne une épidémie, on va dire, très, très mortelle.
Alors, quand il y a eu cette expérience de 2017, si on revient sur cette expérience, c'est parce que là, la peste est sortie du milieu rural, des milieux reculés, pour aller justement en milieu urbain. Et c'est un petit peu aussi le cas, hein, quand on parle d'Ebola. C'était ce qu'on avait vu avec l'épidémie de Mbandaka, notamment au nord de Kinshasa. On s'inquiète forcément quand on arrive dans des zones à très forte concentration, ce qu'on a vu aussi au Liberia et également à Conakry. On s'inquiète forcément quand il y a des grandes villes. Et c'est ce qui s'est passé en 2017.
C'est ce qui s'est passé, en fait. Il y a un patient, une personne qui était tombée malade, qui venait de notre région. Il est allé travailler dans une région endémique de peste. Mais en général, quand les gens tombent malades, le premier réflexe, c'est de revenir chez eux. Donc, il est revenu chez lui. Et pendant le voyage, il a fait une peste pulmonaire qui l'a tué rapidement. Donc il a contaminé beaucoup de gens dans le taxi Bruce. Et certaines de ces personnes, quand elles sont arrivées à Tamatave, habituellement, il n'y a pas de cas de peste. Là, ça a entraîné une transmission très, très importante. Et au tout début, les médecins qui prenaient en charge ces patients-là ne pensaient pas systématiquement à la peste.
Ils pensaient à quoi ?
À la maladie bronchique, d'autres formes de pneumonie, d'origine virale ou autre chose, parce qu'en fait, ils ont laissé rentrer ces personnes-là chez eux, chez elles, excusez-moi, ce qui ne devait pas être fait.
Il n'y a pas eu d'isolement ?
Ils n'ont pas isolé, mais après, quand ces personnes-là ont présenté une détresse respiratoire, sont revenus aux urgences, ils mouraient. Et du coup, ça a un peu alerté les gens.
Et au niveau du personnel soignant, on imagine que si la maladie n'était pas diagnostiquée, identifiée, il y a pu aussi, bien évidemment, y avoir un risque de transmission aux infirmières, aux aides-soignantes, aux médecins.
À tout le monde. À toutes les personnes qui s'occupent des patients, parce que c'est une forme pulmonaire, donc ça se transmet par les gouttelettes, parfois par des aérosols. Donc c'est vrai, il y avait des cas de contamination, hospitalière, nosocomiale. Il y avait des infirmières et des personnels de morgue qui décédaient à cause de cette maladie.
À partir de quand est-ce qu'il y a eu la prise de conscience ? On s'est dit, attention, là c'est la peste, on réagit, on se réorganise.
Je pense qu'il y avait un retard assez conséquent parce qu'en fait, il y avait des mouvements, il y avait des va-et-vient. Parmi les gens qui se trouvaient dans le taxi Bruce, il y avait le premier cas, c'est-à-dire le cas index. Ces gens-là sont revenus après à Tananarive. Il y avait des décès successifs dans leur famille. Et je pense que c'était au quatrième cas de décès que l'un des médecins qui travaillait justement à l'hôpital militaire a pensé à alerter les autorités sanitaires.
Et là, la réponse a été quoi ?
La réponse a été, en fait, on s'organisait. Hein, on a essayé de bien s'organiser. On a formé les médecins par rapport à la prise en charge des cas de peste bubonique pulmonaire, par rapport aux mesures d'isolement.
Se soigne comment, la peste bubonique ?
En général, c'est par les antibiotiques.
Les
antibiotiques et aussi par le traitement des complications. Et surtout penser à isoler les patients. Et toutes les personnes qui s'occupent de ces malades-là doivent porter des équipements de protection individuelle, surtout des masques.
On entend des maladies virulentes, des maladies forcément dangereuses et létales, et la dimension psychologique, professeur Christophe Rapp, parce que ces infections peuvent susciter la peur, voire la panique. C'est ce qu'on a connu avec Ebola, hein, à plusieurs reprises, avec des violences, y compris contre les personnels de santé. À Marseille, vous parlez des fièvres hémorragiques, c'est bien ce sujet-là. En ce moment, on a une flambée d'Ebola en Ouganda. Professeur Christophe Rapp, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'épidémie d'Ebola en Ouganda ?
Alors l'épidémie d'Ebola en Ouganda est toute récente. Elle est en train de monter en puissance à la suite des cas index qui ont eu un certain nombre de contacts. Et il y a eu déjà des premiers décès chez les soignants. La particularité de cette épidémie, c'est qu'elle est liée à un virus Ebola de souche Soudan. On avait plutôt l'habitude de rencontrer de la souche Zaïre et la vraie problématique, c'est que autant on a des traitements, des anticorps monoclonaux et des vaccins contre la souche Zaïre, autant là, on est démuni, on n'a aucun traitement curatif efficace et on n'a pas de vaccin. Donc il va être difficile de riposter puisque dans la riposte Ebola, il y a la prise en charge des patients et puis il y a maintenant, depuis 2018, la vaccination des contacts en anneaux hein, et des professionnels de santé de première ligne. Donc là, il va falloir rapidement mettre en place ces outils, mais ça va mettre plusieurs mois. Et donc pour cette épidémie, ça va être compliqué de la stabiliser, de la contrôler rapidement.
D'autant plus qu'il y a la dimension géographique et régionale. L'OMS dit qu'il y a un risque élevé sur place puisque l'épidémie est localisée sur une route économique fréquentée. Même si à l'heure où on parle, elle épargne la capitale Kampala.
Oui, alors ça c'est un point clé de toutes les épidémies. Les épidémies, les microbes voyagent avec les hommes. Et donc l'épidémie de VIH, c'était disséminée par les transporteurs routiers. Chaque fois qu'il y a des axes routiers, il y a une dissémination de l'épidémie. Les gens vont de leur maison au centre de santé, puis au CHU. Et donc il y a ce qu'on appelle une amplification à la fois familiale et nosocomiale, puisque les personnels soignants, on vient de l'évoquer, ne sont pas familiers avec les agents émergents et ont du mal à les reconnaître. C'est toute la difficulté du dépistage et des grands principes devant des pathologies nouvelles, de dépister, isoler, protéger. On a beaucoup de mal à ça et il faut mettre en place des protocoles. En Europe, ces protocoles existent. En Afrique, c'est plus compliqué à mettre en place. Il y a des pays qui sont structurés comme la RDC maintenant parce qu'ils ont fait face à des épidémies. Les autres pays sont moins armés et ont besoin de sensibilisation, de formation et d'outils, notamment de laboratoires, pour rapidement discriminer les maladies, puisque Ebola, ça ressemble au paludisme. C'est de la fièvre, de la diarrhée, des maux de tête. Il n'y a pas toujours de l'hémorragie. Dans les épidémies en 2014, il n'y avait que 15% de patients hémorragiques. Donc les fièvres hémorragiques, il ne faut pas les appeler comme ça. En réalité, ça ressemble au paludisme, à la typhoïde. Et c'est toujours le premier diagnostic qui est porté par les centres de santé, malheureusement, d'où une retard de prise en charge. Et bon, on ne va pas revenir sur l'alerte, mais le diagnostic précoce du cas index fait le succès de la riposte de l'épidémie, c'est évident.
Vous dites cas index, vous avez dit maladie à virus Soudan. On a vu lors des récentes épidémies d'Ebola beaucoup de cas de résurgence. Déjà, on va expliquer ce que c'est, ce virus endormi chez des survivants.
Alors, le virus Ebola, il a la capacité d'avoir des réservoirs, et notamment au niveau spermatique, et peut y avoir des transmissions sexuelles secondaires tardives, puisque les gens étaient encore porteurs du virus. Et chez ces survivants qui vont avoir des rapports avec des partenaires, il peut y avoir réémergence d'un cluster épidémique. Ça s'est passé en 2021 en Guinée. Ce n'est pas suffisant pour générer des grosses épidémies, mais ça donne des clusters familiaux.
Et là, sur l'Ouganda, est-ce qu'on a déjà des pistes sur la base de la contamination ou pas vraiment ?
Alors pour l'instant, on manque un petit peu de données d'investigation sur la source du virus. On sait que c'est une zoonose, on sait qu'il y a un contact entre le réservoir qui est des chauves-souris dans les grandes forêts. On sait que c'est un lien avec la déforestation. Ça se passe toujours un peu de la même façon au départ. Mais là, on n'a pas encore les publications, les renseignements sur l'identification de la source. C'est d'ailleurs parfois totalement impossible de comprendre comment ça a commencé. Mais ce qui est inquiétant là, c'est qu'on voit quand même qu'il y a des hotspots en Afrique, des zones à risque où on peut avoir l'émergence de plusieurs virus. La Guinée, par exemple, ces dernières années, il y a eu de l'Ebola, du Lassa et du Marburg. Voilà. Donc il y a quand même un terrain propice à ces émergences, d'où l'intérêt de se préparer et d'avoir maintenant une surveillance, un système d'alerte riposte et puis de surveillance intégrée qui ne surveille pas uniquement une maladie, mais de nombreuses maladies susceptibles de générer des problèmes.
Alors justement, professeur Rapp, tout à l'heure, vous allez bien nous expliquer la différence entre ces différentes maladies dites fièvre hémorragique, même si on a compris qu'il ne faut pas dire fièvre hémorragique, parce que ce n'est pas forcément le premier symptôme. Je reviens vers vous, docteur Odile Owemisi-Oukem. Cette expérience au Mali, la double problématique. En même temps, il faut faire un état des lieux sanitaires. En même temps, il faut proposer des solutions locales pertinentes. Expliquez-nous d'abord, peut-être pour commencer, à quels besoins précis répond l'initiative Labo Medcamp.
C'est pour pouvoir mettre à la disposition des populations rurales un diagnostic de qualité. Pour cela, on installe des laboratoires dans des centres de santé communautaires qui en sont dépourvus, en misant sur la formation du couple médecin-technicien de laboratoire, c'est-à-dire que non seulement le technicien de laboratoire doit savoir réaliser un certain nombre d'analyses basiques, mais le médecin doit être au courant des analyses que le technicien peut faire avec les techniques et donc de les prescrire. Parce que le technicien tout seul, s'il n'y a pas des prescriptions, ne fera pas grand-chose. Et donc, ça implique également l'installation de matériel et d'équipement, bon, qui sont basiques. Et l'idée, en fait, c'est de proposer un paquet maximum d'activités et pas minimum. C'est-à-dire que pour que les analyses soient faites avec une bonne qualité, comme on dit, qui trop embrasse mal étreint. On est vraiment au niveau première ligne. Donc, on se limite à un certain nombre d'analyses nécessaires pour un premier diagnostic d'orientation.
Comment on fait, par exemple, pour les intrants, pour que les personnels de laboratoire ou le personnel de laboratoire, s'il n'y a qu'un seul technicien, aient tout le temps, parce qu'on sait que c'est une problématique évidente, les réactifs, les produits, voire même y compris le groupe électrogène pour faire fonctionner tout ça.
Oui, alors c'est effectivement une problématique. Quand on installe un laboratoire dans ces centres de santé, au départ, il y a une dotation Hein, donc il y a un certain nombre de réactifs de départ. Et l'association de santé communautaire qui gère ce centre de santé doit s'être engagée d'abord à payer le technicien et puis à faire le renouvellement des réactifs, même de réparer les appareils lorsqu'ils sont en panne. Il y a un travail qui est fait aussi avec les centres de santé de référence, donc qui est le niveau supérieur, qui peut, dans certains cas, aider au réapprovisionnement, notamment pour des réactifs, pour les tests pour la tuberculose, etc. Et qui joue également un rôle de supervision. L'idée, en fait, c'est d'essayer maintenant d'intégrer ces laboratoires dans les centres de santé communautaires, dans la pyramide du système de santé, et que les centres de santé de référence fassent des supervisions aussi au niveau du laboratoire.
Aujourd'hui, combien de labos ont été déployés ?
22 dans 4 régions du Sud.
Et il y a suffisamment de personnel formé ?
Alors, le personnel qui est formé, s'il reste en place, c'est quand même aussi parfois un défi. Et bien formé, parce qu'il y a des suivis formatifs qui sont organisés par Santé Sud, qui est un de nos partenaires de mise en œuvre. Nous travaillons également avec le Centre d'infectiologie Charles Mérieux. Et donc, ces suivis formatifs, ils ont d'abord été proposés par Santé Sud, mais petit à petit, dans l'idée de la pérennisation de ce programme, en fait, on essaye de faire prendre le relais par les techniciens de laboratoire des centres de santé de référence, de telle façon qu'il n'est pas toujours besoin soit de revenir dans la capitale, soit que les équipes de Santé Sud soient considérées comme indispensables.
Et il y a un double intérêt, parce que là, on va faire du repérage de terrain et on revient à notre thématique d'hier. Ça va aussi permettre de faire remonter des informations pour avoir un état des lieux épidémique.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc, c'est important aussi pour pouvoir envisager à une plus grande échelle, éventuellement, des interventions. Et on observe à ce propos plusieurs temporalités, c'est-à-dire qu'on a l'intervention de terrain et puis on a des interventions nationales, régionales, voire avec les pandémies internationales, et en même temps se montrer prudent. Toute cette dimension psychologique qu'on a abordée avec ces maladies sensationnalistes que sont par exemple la peste ou Ebola, c'est vrai qu'il faut aussi faire attention par rapport aux informations qui sont recueillies, docteur Odile Ouemisi-Oukem, pour qu'il y ait, même au niveau local, un certain secret, une dimension quand même de secret médical qui soit respecté, même si on travaille à toute petite échelle.
Oui, bien sûr. Bon, je pense que ça, c'est le rôle des médecins. Dans ces centres de santé communautaires, ce sont souvent des médecins qui sont placés par l'association des médecins de campagne. D'ailleurs, eux, globalement, sont relativement stables. S'ils partent, parfois, c'est pour des formations. Et donc, bien sûr, ce secret médical fait partie de leur rôle et de leur devoir, je dirais.
La dimension émotionnelle de la maladie qui agit à plusieurs niveaux, professeur Rapp, parce que c'est assez paradoxal, l'intérêt pour les sujets de santé. On voit, avant l'été, on parle de la variole du singe, on en parle énormément. Qu'est-ce que ça va devenir ? Et puis, à la rentrée, on dirait que c'est le flop, ça n'intéresse plus personne. On n'entend plus du tout parler. Comment est-ce que vous expliquez ces différents niveaux d'intérêt ou de désintérêt public ? Parce que ça marche aussi pour la défiance et ça marche aussi pour la riposte. C'est-à-dire, si les gens sont moins informés, peut-être qu'ils iront moins se faire dépister, moins se faire vacciner. Comment on agit comme ça dans une mesure pour être efficace face à des épidémies ?
Alors en fait, le problème de la circulation de l'information est crucial et c'est vrai que le retentissement des épidémies est très variable. Quand on a une maladie à transmission aérienne comme la Covid-19 qui va toucher tous les continents avec une transmission très efficace aérienne, tout le monde se sent concerné, il y a un volume de patients très important. Si vous allez sur des maladies comme les fièvres hémorragiques virales africaines à transmission contact qui d'habitude avant 2014 faisaient des petites épidémies faciles à contrecarrer en isolant un petit peu la communauté, l'Occident se sent pas menacé. L'Occident a répondu tardivement en 2014 parce qu'il y a eu des cas importés. Et donc là, on arrive sur la dimension politique, économique des épidémies. C'est-à-dire que la riposte des pays à revenus élevés, elle commence quand l'anxiété est forte dans le monde économique et social. Donc là, c'est une dure réalité. Et de fait, les épidémies ont un retentissement tout à fait variable. Au départ, là, le monkeypox a accroché parce qu'il y avait la connotation variole. Et en réalité, la variole du singe n'a rien à voir avec la variole sur le plan clinique et sur le plan de la létalité.
Ça ressemble peut-être davantage à une varicelle.
Ça ressemble davantage à une varicelle et c'est surtout beaucoup moins létal que la variole, qui est une maladie létale. Et donc finalement, on s'est rendu compte que ça diffusait dans des groupes à risque et non pas dans la communauté globale, même si ça l'a un petit peu fait. Et donc le risque étant modéré et puisqu'on avait un vaccin, eh ben, la tension est retombée. En revanche, si on a un nouvel agent émergent, et notamment dans la définition des maladies hautement contagieuses comme Ebola ou le Lassa, c'est qu'il n'y a pas de traitement et de vaccin. Chaque fois qu'il n'y a pas de traitement et de vaccin, le contrôle de l'épidémie est beaucoup plus complexe. Hein. Et on a eu ça avec Covid-19, mais on a vu aussi qu'on avait des capacités de réaction extraordinaires, puisque en 18 mois, on arrive à faire un vaccin, et c'était vrai pour Ebola. Mais là, il faut mobiliser les politiques, mobiliser les financements pour que les gens s'intéressent aux pathologies. C'est un autre sujet des maladies négligées qui sont très nombreuses.
Et parmi les maladies négligées, hein, on peut dire aujourd'hui que la peste est une maladie négligée, professeur Mirandria, parce que beaucoup de gens pensent que la peste, tout simplement, n'existe plus.
Oui, malheureusement, mais elle est toujours là. Il y a toujours le risque de, on va dire, de propagation de la peste, hein, même dans les pays avancés, parce qu'on peut utiliser la peste comme une arme biologique, bactériologique. Donc, faut tout de même s'en méfier. Certes, on dit que c'est une maladie de l'Antiquité, mais la bactérie circule toujours, peut-être beaucoup plus dans certains pays, mais cela pourrait atteindre d'autres pays habituellement il n'y a pas de cas de peste.
L'expérience de 2017, est-ce que vous diriez que votre pays en a tiré les enseignements, que si pareil péril se présente à nouveau, il y aura une meilleure réaction, même si évidemment on n'est pas là pour lire l'avenir, parce qu'on l'a fait récemment et on a vu que ça ne marchait jamais. La question de la rapidité du diagnostic, est-ce que vos services, par exemple en maladies infectieuses, sont prêts aujourd'hui à vraiment identifier, tracer, isoler ?
Oui, ça fait partie des leçons qu'on a tirées de cette pandémie. Il y a toujours des leçons à tirer. Hein. Il y a toujours de bonnes choses dans des crises sanitaires comme l'Ebola, comme la peste. Et en fait, après, donc déjà durant l'épidémie, il y avait des formations successives sur la peste et sur les différentes mesures de prévention, de prise en charge et tout cela. Et maintenant, je pense que dans beaucoup de régions, les médecins pensent beaucoup plus à une peste dès qu'il y a un bubon, surtout quand il y a une fièvre, quand il n'y a pas de porte d'entrée et tout ça. On veut dire qu'on a augmenté les capacités des gens à poser le diagnostic de la peste et surtout à mieux traiter les cas de peste et surtout penser à l'isolement et à faire l'alerte dès qu'il y a une suspicion de cas de peste. Je pense que
vous parlez de la réaction et en termes de prévention, est-ce qu'il y a eu des mesures diffusées dans la sensibilisation des populations, par exemple pour éviter certains gestes qui sont susceptibles de réactiver cette petite bactérie très méchante ?
Tout à fait. En fait, là aussi, on sait que c'est une maladie endémique à Madagascar et je ne sais pas jusqu'à quand elle sera là, surtout que c'est assez lié aussi à la pauvreté et à pas mal de choses. Donc, parmi les mesures recommandées, on a fait une revue qu'on appelle la revue à préaction avec l'OMS et d'autres organismes. Et la prévention était l'une des mesures qu'on a vraiment proposées pour éviter la réapparition d'une nouvelle épidémie.
Vous disiez zoonose tout à l'heure. On a l'image notamment littéraire des rats, oui, et de la peste. C'est une réalité ?
C'est une réalité, oui.
Vous dites la pauvreté, il y a aussi la gestion des déchets. On a des images de Madagascar avec des images absolument catastrophiques en termes d'absence des systèmes de traitement des ordures. C'est une réalité aussi. Ça veut dire que les médecins, ils ont beau faire leur travail, si les pouvoirs publics ne font pas leur travail, la peste, elle sera toujours là.
Tout à fait. Mais avant cela, il y a la mesure de lutte contre les réservoirs, comme vous avez dit. Hein. Et les rats, en général, aiment bien les déchets. Mais je pense qu'il est important de rappeler tout cela aux responsables de différents niveaux. Parce que c'est vrai, il faut vraiment lutter contre les réservoirs et contre les vecteurs.
La santé publique, c'est aussi ça. On va poursuivre cet échange. On va se retrouver toujours en compagnie de nos trois invités ici à Marseille à l'occasion des actualités du Pharo, médecine tropicale francophone. Ce sera tout de suite après un duo, Mamani Keïta et Sowal Diaby, avec ce titre, Solila.
Solila, deon solila, de bagnou mako, deon solila. Solila, deon solila, de bagnou mako.
Solila,
Deuxième journée à Marseille à l'occasion des actualités du Pharo pour parler des maladies émergentes et de la réponse face aux flambées épidémiques en milieu tropical. On poursuit notre échange en compagnie de nos trois invités. Elle est virologue représentante de la Fondation Mériot-Mallu où des chercheurs conduisent des études sur la biosûreté et l'installation de laboratoires de campagne. Docteur Odile Houé-Missi-Houkem, qui est donc avec nous. Épidémie de peste pulmonaire urbaine à Madagascar. On revient sur cette expérience de 2017 et ses enseignements avec le professeur Mamie Randria, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au centre hospitalier universitaire Joseph Razeta de Befelatana d'Antananarive. Et puis avec le professeur Christophe Frappe, infectiologue à l'hôpital américain de Paris. On parle de cette actualité des fièvres hémorragiques. Une grande actualité, professeur Frappe, puisque ces derniers mois, c'est aussi le Ghana qui a connu une première épidémie de maladie à virus Marburg, inédit pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. On va commencer par la base. Tout à l'heure, on a rapidement évoqué Ebola, Marburg, les symptômes, les caractéristiques particulières. D'ailleurs, il y a plusieurs maladies de cette même famille. Qu'est-ce qui les distingue ?
Alors, le virus Marburg, c'est un cousin d'Ebola, c'est un filovirus, c'est un virus filamenteux qui possède un réservoir animal, les chauves-souris frugivores des grandes forêts. Donc c'est le même réservoir qu'Ebola. La présentation clinique, c'est la même. C'est toute la difficulté d'identifier justement ces virus. Ça donne de la fièvre, des maux de tête, de la diarrhée, puis des manifestations hémorragiques, mais qui sont là aussi inconstantes et tardives dans l'évolution de la maladie. Donc le point clé, dans ces zones où peuvent coexister différents virus, c'est premièrement y penser devant un diagnostic, notamment devant un tableau avec un test de paludisme négatif, bien entendu, et deuxièmement, d'avoir les outils de laboratoire susceptibles de screener les différents virus. Très souvent, on a raisonné avec j'ai une épidémie d'Ebola dans le pays, je mets en place des tests d'Ebola pour les épidémies futures, mais on n'a pas toujours les capacités de screener différents virus. Et l'histoire récente illustre qu'il faut en réalité avoir des tests beaucoup plus larges susceptibles de screener tous les types de virus qui peuvent circuler en Afrique. C'est la vraie difficulté. Alors là, le Ghana s'est bien débrouillé parce qu'effectivement, le cas a été identifié rapidement. Et il y a eu l'épidémie finalement de Marburg. C'était trois cas et deux décès et tout a été rapidement, contrôlé. Parce que, premièrement, le diagnostic a été fait précocement et, deuxièmement, le pays disposait des outils diagnostiques et les a mis en œuvre rapidement et les a fait contrôler ensuite à l'Institut Pasteur de Dakar, qui est le centre de référence en Afrique.
Cet institut où nous étions il y a à peine 15 jours d'ailleurs. Une question très importante, vous dites, il faut absolument distinguer les différentes maladies. Question naïve, pourquoi ? Puisque finalement, ce sont pratiquement les mêmes symptômes, il y a la même létalité, il y a la même prise en compte du péril infectieux. Alors pourquoi est-ce qu'il faut les distinguer absolument ? Et finalement, pourquoi on ne leur donne pas toutes le même nom ?
Non, il faut les distinguer de façon tout à fait cruciale parce que dans la prise en charge individuelle du malade, il peut y avoir des différences puisque pour certains virus, nous avons des traitements efficaces et pour d'autres, nous n'avons pas de traitement. Le socle commun de la prise en charge symptomatique est majeure dans les fièvres hémorragiques. Il faut un traitement très, très intensif pour avoir des résultats. Mais il y a ce qu'on appelle les traitements curatifs. Et là, certains existent, notamment pour Ebola. Pour Marburg, on n'a pas de piste. Pour Lassa, on utilise un peu la ribavirine. Ça, c'est le premier niveau individuel. Et au niveau collectif, pour certains agents pathogènes, nous disposons de vaccination. Pour Ebola, par exemple, le vaccin disponible permet de vacciner les contacts et va avoir un rôle majeur sur le contrôle de l'épidémie avec cette vaccination en anneau. Donc,
Et on n'a pas de vaccin pour Marburg.
On n'a pas de vaccin pour Marburg.
Il y a des recherches pour en trouver un ?
Alors, il y a de la recherche. Il y a ce qu'on appelle les plateformes vaccinales. Il y a beaucoup de recherches. Mais tant que les épidémies n'ont pas d'ampleur, il n'y a pas de vaccin. Parce que là, on est dans un principe de réalité. C'est que les laboratoires ne fabriquent pas de vaccin s'il n'y a pas de marché. Et donc, le marché, il est créé par l'OMS et les besoins. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des maladies orphelines et que Ebola, ça a été très compliqué de mettre en place un vaccin lors de la dernière épidémie. On avait d'ailleurs, au départ, voulu faire de la plateforme ARN et à l'époque, les laboratoires internationaux n'avaient pas voulu le faire parce qu'il n'y avait pas de marché.
Et on va peut-être rappeler aussi, y compris pour ces maladies hémorragiques type Marburg, Lassa ou Ebola, le délai nécessaire pour déclarer la fin d'une épidémie comme ça a été le cas au Ghana. Il faut combien de temps ? C'est quoi les critères ?
Alors, la fin d'une épidémie, en fait, elle est définie par l'incubation de la maladie. L'incubation de la maladie, c'est le temps entre le contact avec l'agent et les symptômes. Les fièvres hémorragiques, c'est globalement de 5 à 21 jours. Et donc, par sécurité, on déclare la fin d'une épidémie quand le temps de l'incubation est multiplié par 2, c'est-à-dire 42 jours après le dernier cas. C'est une définition de précaution de l'OMS.
Et l'OMS qui indique que Marburg présente un taux de mortalité, hein, j'ai lu ça dans leur documentation, entre 24 et 88%. Pourquoi un tel écart ?
Alors en fait, dans chaque épidémie, les taux sont assez variables. Sur le plan historique, parce que la surveillance épidémiologique ne permettait pas d'évaluer le nombre de cas, et que donc ce n'est pas si facile que ça d'avoir des statistiques de décès fiables en Afrique. Pour Ebola, en 2014, hein, vous savez que l'OMS a déclaré environ 20 000 cas. En réalité, quand on reprend les dossiers quelques années plus tard, on est certainement à plus de 40 000 cas. Hein. Donc les chiffres ne sont jamais très, très justes. Et après, cette létalité, tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des maladies très létales. C'est-à-dire que quand vous avez en médecine des taux qui dépassent 10 %, ça devient des maladies très létales. Et là, on est systématiquement entre 40 et 80 %. C'est l'inverse du Covid-19. Hein. Le Covid-19, ça a touché beaucoup de monde. Ce n'est pas une maladie létale. La létalité, elle est inférieure à 0,5%. Ça n'a rien à voir.
Professeur Mamir Andria, sur une maladie comme la peste, qu'elle soit pulmonaire ou bubonique, on était à une létalité de quel niveau ?
En fait, comme ça a été dit par le professeur Rapp, les données statistiques ne permettent pas toujours d'avoir une bonne visibilité de ce qui s'est réellement passé. Mais d'après les données de l'Institut Pasteur, pour la forme pulmonaire, c'était autour de 25%. Pour les cas vraiment confirmés, et pour la peste bubonique, c'était juste un peu moins, c'était 24%.
Donc c'est quand même très élevé.
C'est très élevé, oui.
Et ce qui peut aussi provoquer des mouvements de panique, des mouvements de peur, est-ce que c'est quelque chose qui a été observé face à cette flambée de peste ?
Oui, tout à fait, ça a été observé, parce que quand on annonce quelque chose à la télé, les gens s'inquiètent. Donc il y avait beaucoup de peur dans la population. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Il y avait une ruée vers les officines pour acheter des antibiotiques. Donc il y avait une rupture d'antibiotiques dans les officines, mais il y avait aussi une automédication massive faite par la population. Et puis il y avait par rapport au comportement des gens dehors de l'acquisition d'antibiotiques, c'est qu'il y avait des gens qui se sont rués vers les consultations pour être sûr de ne pas avoir la peste, mais notre groupe qui a évité d'aller vers le centre de santé parce qu'ils comprenaient que il y avait un risque de transmission au niveau de ces centres de santé. Donc les gens devront quelque chose et peuvent adopter différents comportements.
Docteur Odile Houé, ici ou quand même là, on entend bien la riposte, qu'il s'agisse justement des fièvres hémorragiques comme Ebola, qu'on parle de la peste, même si évidemment en zone sahélienne, jusqu'à présent, vous n'êtes pas du tout concerné. Fièvre de la vallée du Rift. Ce centre, ce réseau d'études de surveillance dans la zone Sahel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les scientifiques opèrent sur place, de quoi il s'agit précisément ?
Oui, donc c'est un réseau de biosûreté dans les pays du G5 Sahel. En fait, ce sont des institutions de recherche ou de santé publique qui se sont mis ensemble. Donc il s'agit du centre d'infectiologie Charles Mérieux au Mali, de l'Institut national de recherche en santé publique à Nouakchott en Mauritanie, du centre Muraz à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, du centre de recherche médicale et sanitaire à Niamey, au Niger. Et alors au Tchad, il n'y a pas d'institution de recherche en tant que telle, c'est le ministère de la Santé du Tchad. Donc ces institutions-là se sont mises ensemble, les scientifiques, les directeurs scientifiques ou les responsables d'institutions, pour faire ce réseau. Donc c'est avec l'appui technique, les partenaires de l'Institut de microbiologie de la Bundeswehr, donc qui ont mis au point d'abord de manière militaire et puis ensuite donc une forme civile de laboratoire mobile qui permet d'aller faire le diagnostic, comme vous disiez, professeur Rapp, dans les zones reculées. Parce que c'est un laboratoire mobile, non pas avec un camion et des grosses roues, mais ce sont des cantines qui sont transportables par véhicule, voire même à dos d'homme. Et donc, on peut aller vraiment à l'endroit où il y a une suspicion d'épidémie pour faire le diagnostic de ces agents pathogènes. Et donc là, ce que la coopération avec les Allemands a permis de donner comme outil, c'est justement tous ces outils diagnostiques des différents agents pathogènes pour faire la distinction entre Marburg, Ebola, Vallée du Rift, etc. Donc il y a eu une formation d'une équipe qu'on appelle équipe d'intervention rapide du G5 Sahel, puisqu'en fait ce sont 2-3 personnes de chaque pays qui ont d'abord été formées dans les premières phases, et puis on est en train maintenant d'élargir le nombre de personnes formées parce que ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était effectivement la pandémie de Covid-19, où finalement, chaque pays avait besoin de son équipe d'intervention et de son laboratoire. Donc, le réseau, en fait, a un laboratoire pour l'ensemble des 5 pays, qui sert actuellement plus pour des formations. Là, au mois de novembre, on va faire un exercice de déploiement sur le terrain, à 20 km de Nouakchott, pour se mettre en situation et travailler ensemble, et donc faire un diagnostic dans des conditions dégradé, entre guillemets, hein, dans des conditions de terrain, avec pas forcément le courant ou pas forcément l'eau courante, etc.
Mais évidemment, tous ces efforts, ils sont fortement compliqués par la situation sécuritaire.
Alors, ils sont compliqués par la situation sécuritaire, effectivement. Quand on a voulu faire l'exercice de déploiement, parce que le laboratoire du G5 est gardé par le centre d'infectiologie Charles Mérieux au Mali, et quand on a fait l'exercice de déploiement à Bobo-Dioulasso, on avait d'abord envisagé de faire un déplacement par la route. Bon, ce que finalement, on n'a pas fait, et donc le déploiement s'est fait par avion, puisque donc il faut faire déplacer ce laboratoire d'un pays à un autre. Et donc là, pareil, pour la Mauritanie, ça va être le cas. C'est vrai que le choix du lieu de l'exercice, enfin de cet exercice de simulation, est aussi lié aux contraintes sécuritaires.
Avec tout ce qui évolue en ce moment, également du côté du Burkina Faso. Alors l'impact de la pandémie, comment le Covid, ça va être notre conclusion, comment le Covid a pu non seulement fragiliser des structures déjà assez vulnérables, mais peut-être aussi, à certains égards, provoquer, vous l'avez évoqué rapidement, docteur Odile Ouemisioukem, une sorte de prise de conscience, d'électrochoc, de dire ben là, on a vraiment besoin, à tel ou tel endroit, de moyens supplémentaires pour dépister, pour diagnostiquer. Je me tourne d'abord vers vous, professeur Mamir Andria. On a parlé de ces maladies à fort potentiel, non seulement infectieux, mais aussi émotionnel. Est-ce qu'à Madagascar, la pandémie de Covid a éloigné les patients du système de santé ou, à l'inverse, faire reprendre conscience des risques liés au péril infectieux qui n'a, on va le dire, jamais vraiment quitté la grande île ?
Non, je pense que c'est un peu les deux. Devant quelque chose, les gens ne réagissent pas toujours de la même façon. Il y a d'un côté une prise de conscience. De l'autre côté, il y a, la pandémie elle-même, elle n'a pas permis de faire différentes interventions importantes comme la sensibilisation, le dépistage. Donc, comme dans beaucoup de pays, il y a un retard pour le diagnostic de certaines maladies comme la tuberculose, le VIH ou autre chose. Donc, il y a toujours un peu les deux. Mais voilà, je pense que le plus important après, c'est de pouvoir récupérer rapidement le retard pendant la pandémie. Parce que, comme vous savez, la pandémie a beaucoup d'impact sur beaucoup de choses et dans beaucoup de domaines.
Y compris économique et social. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que vous avancez sur ce chemin du, on va dire, du rattrapage ?
Je pense qu'il y a ça, oui. Je le sens. Il y a ce rattrapage-là, oui.
Et au niveau du travail avec les pouvoirs publics, parce qu'on y revient, c'est aussi essentiel, avoir les moyens de ses ambitions, avoir les moyens, vous faites des efforts sur le terrain, mais il faut pouvoir travailler. Vous avez l'impression que les choses ont changé depuis ou pas vraiment ?
Je pense que les pouvoirs publics, eux aussi, ils tirent des leçons par rapport à ce qui se passe. Et je pense que quand on est responsable, on essaie toujours de tirer des leçons et de trouver des solutions à des problèmes.
Et vous êtes un diplomate ?
Je ne sais pas. Mais...
si, je l'entends bien. Professeur Christophe Raponde, on avait pu observer l'effet dévastateur sur les structures de santé au Libéria, en Sierra Leone, après la grande épidémie d'Ebola, 2014-2016. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a des petites flambées qui se répètent, comme on le voit actuellement en Ouganda, évidemment, on ne peut pas encore tirer de conclusion, mais ça s'est passé récemment en Guinée, ça s'est passé en RDC, il y a eu le Covid qui est venu mettre une grande chape sur tout ça. Est-ce qu'on voit que ça abîme en général les systèmes de santé, ou est-ce que ça donne une forme de sursaut aux populations ?
Alors, il y a deux choses que vient de dire mon collègue. En fait, là, les études en Afrique ont montré, par exemple, que la Covid-19 avait des effets collatéraux délétères, puisque la gestion a mobilisé du monde et le nombre de décès hors Covid-19 est deux fois supérieur à ceux décédés du Covid-19, avec tuberculose, VIH, paludisme et rougeole. Donc là, ça, c'est un classique, mais il faut que l'épidémie ait une certaine ampleur. Si vous avez une épidémie de 3 cas d'Ebola, etc., ça va inquiéter, ça va mettre de la rumeur, mais ça ne va pas déstabiliser le système. Mais dès que ça dure dans le temps et qu'il y a un volume de patients important, ça concentre des moyens très importants qui fait que les programmes qui sont déjà très verticaux s'arrêtent. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'on tire les leçons dans le sens de la promotion de la santé. augmenté au niveau mondial. On s'est rendu compte que des choses simples qu'on répète depuis des dizaines d'années, le lavage des mains, l'accès à l'eau, le port des masques, sont des outils de mesure de lutte contre différents types d'agents pathogènes qui sont très impactantes et très intéressantes. En revanche, il faut effectivement une volonté politique pour les mettre en place et il faut faire plus de prévention. Et plus que la prévention, le mot à la mode, c'est la promotion de la santé. C'est-à-dire qu'il faut intégrer ce qu'on appelle les mesures barrières dans réalité, dans notre quotidien. Alors en Asie, ils savent faire ça avec les masques, etc. Nous, en Europe, avec la Covid-19, on fait ce que j'appelle des effets on-off. On met des mesures, on les arrête brutalement sans expliquer. En réalité, là, en France, le Covid-19 remonte. C'est le début de la période hivernale. On doit réintégrer ces mesures sans parler d'obligation, mais ces fortes recommandations doivent devenir des habitudes. C'est le sens de la promotion de la santé, comme arrêter de fumer, limiter la consommation de sel, etc.
Et d'alcool. Effet délétère de la pandémie de Covid-19, mais dans une certaine mesure, parfois aussi une sorte d'électrochoc révélateur. Docteur Odile Ouemissi-Oukem, on a compris que la rapidité de la riposte était importante avec la pandémie, l'autonomie dans la riposte aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut réinvestir dans certains secteurs, envisager des nouvelles coopérations ?
En tout cas, investir dans le secteur du diagnostic, oui. Je pense que le laboratoire, bon, on a l'habitude de dire que c'est le parent pauvre hein, de la biologie. Et là, je pense qu'avec justement cette pandémie de Covid-19, il y a eu une prise de conscience que finalement, le laboratoire était extrêmement important pour faire ce diagnostic le plus précocement possible. Là, par exemple, au Mali, quand il y a eu une flambée de Covid-19 à Tombouctou, parce qu'en fait, il n'y avait aucun respect des mesures barrières, le ministère de la Santé a demandé au centre d'infectiologie Charles Mérieux de déployer ce laboratoire mobile. Donc, ils sont montés à Tombouctou, ils ont fait du diagnostic et du coup de l'isolement, simplement, hein. Ceux qui étaient positifs étaient isolés. Et en 30-40 jours, l'épidémie, la flambée a stoppé.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission aujourd'hui à Marseille, dans le cadre des actualités du Pharo, dont on remercie bien sûr les organisateurs pour leur accueil et ce partenariat. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À C'est tout Samaké, Ophélie Lassène, Boris Vichit à Marseille et Didier Bleu. Et lundi, dans Priorité Santé, on va parler de la timidité, peur des nouvelles rencontres, comment gérer ses réactions, son émotion, comment surmonter le regard des autres. On va répondre à vos questions dès 9h10 temps universel. À lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner face aux imprévus sur votre route.